Le journal présenté par Thomas Larabi.
Bonjour à tous. Attaque meurtrière dans un hôtel en Somalie, au moins 26 morts et 56 blessés durant ce siège qui a duré plus de 12 heures. Les assaillants des militants islamistes Shebab ont été abattus. Plus de précisions dans ce journal. Facebook mise à l'amende, le réseau social doit payer 5 milliards d'euros au gouvernement américain suite à l'affaire Cambridge Analytica. Nous verrons pourquoi cette somme en apparence astronomique ne devrait pas avoir beaucoup d'impact. Enfin, l'Opéra Bastille fête ses 30 ans aujourd'hui, 30 ans que cet opéra tente de démocratiser la musique et la danse auprès de publics non avertis. Reportage en bas des tours à l'Île-et-Rose avec la troupe Opéra Apéro à la fin de cette édition. Au moins 26 morts et 56 blessés dans l'attaque d'un hôtel en Somalie. Des militants islamistes Shebab ont fait le siège d'un établissement de la ville portuaire de Kismayo dans le sud du pays. Nabila Hamel, bonjour.
Bonjour.
Ce siège a duré près de 12 heures et a pris fin ce matin, Nabila.
Oui, une irruption dans un hôtel très fréquenté par des étrangers, puis une attaque suivie d'une prise d'otage. C'est le type d'opération que signent généralement les Shebabs somaliens. Là, c'est à Kismayo, ville portuaire du sud-est de la Somalie, qu'ils ont frappé. Et c'est la première fois qu'ils mènent une telle opération dans cette région depuis qu'ils en ont été chassés en 2012. L'assaut a duré près de 12 heures. Il y a eu une riposte des forces de sécurité. Mais si l'on parle ce matin de 26 morts et 56 blessés, le bilan pourrait s'alourdir selon certaines sources sécuritaires. L'hôtel en grande partie était détruit par les explosions. En le ciblant, les Shebabs, affiliés à Al-Qaïda, veulent témoigner qu'ils gardent une capacité de nuisance dans le pays, même s'ils ont été délogés de leurs principaux fiefs. L'hôtel Medina de Kismayo est en effet fréquenté par des hommes d'affaires de pays voisins et de pays non africains, par des journalistes, par des hommes politiques somaliens qui étaient dans la ville pour la préparation de l'élection du président du Jubaland, une région semi-autonome avec un gouvernement local affilié aux autorités somaliennes.
Les explications de Nabila Hamel. Sa parole est rare. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah libanais, a annoncé hier avoir réduit le nombre de combattants engagés en Syrie. Des combattants engagés aux côtés du régime de Bachar al-Assad dans le conflit qui ravage le pays depuis 8 ans. Les explications de Chloé Doma à Beyrouth.
Le discours a duré plus de 3 heures. Coiffé de son habituel turban, Hassan Nasrallah, qu'on ne voit presque jamais en public, s'est exprimé sur Al-Manar, la chaîne de télévision du Hezbollah. De ce discours fleuve, on retient 2 choses. D'abord, la Syrie. Le Hezbollah, qui est engagé militairement aux côtés de Bachar el-Assad depuis 2013, annonce qu'il va réduire le nombre de ses combattants en Syrie. Ce retrait progressif, dit Nasrallah, ne se fait pas sous pression, mais au profit de l'armée syrienne, qui contrôle aujourd'hui la majorité du territoire. Le chef du puissant parti chiite ne précise pas de date pour le retrait, ni combien de ses hommes sont concernés. Mais si cette annonce est suivie des faits, il s'agit d'une étape de plus qui vient confirmer la victoire militaire du régime syrien, 8 ans après le début du conflit. Hassan Nasrallah a aussi réagi aux nouvelles sanctions du Trésor américain contre son parti. Les États-Unis, qui considèrent le Hezbollah comme une organisation terroriste, ont sanctionné le 9 juillet 3 de ses membres, dont 2 députés en exercice. Pour Nasrallah, le fait de s'en prendre à ses élus est une insulte à l'État libanais. Depuis les dernières élections en 2018, le Hezbollah a 14 députés au Parlement libanais et 3 ministres au gouvernement.
La correspondance de Chloé Doma à Beyrouth. Facebook écope d'une amende record. Le réseau social doit payer 5 milliards de dollars au gouvernement américain. C'est la sanction suite à l'affaire Cambridge Analytica éclatée en mars 2018. Facebook avait alors transmis les informations de 87 millions d'utilisateurs à leur insu. Une amende record au montant vertigineux avec 9 zéros, mais pas forcément suffisante pour lui faire changer de comportement, Loïc Piala.
5 milliards de dollars, c'est beaucoup plus que le précédent record, une amende de 22 millions infligée à Google en 2012 par la Commission fédérale du commerce. Le New York Times y voit le signe d'une administration Trump lassée des excès des géants de la technologie. Mais pour un groupe qui a déclaré 55 milliards de revenus en 2018 et dispose d'énormes réserves de cash, ce montant ressemble à de l'argent de poche, regrette le sénateur démocrate du Connecticut Richard Blumenthal. David Cicilline, un autre élu démocrate, parle lui d'un cadeau de Noël en avance qui ne poussera pas Facebook à réfléchir à sa responsabilité dans la protection des données des utilisateurs. La firme californienne avait de toute façon prévenu ses actionnaires dès le mois d'avril de l'éventualité d'une amende géante. Wall Street n'a donc pas sanctionné le réseau social, au contraire. Le titre Facebook a fini en hausse de 1,8% vendredi soir, à son plus haut depuis près d'un an.
En France, Mediapart en remet une couche sur François de Rugy. Nouvelle révélation hier soir du site internet concernant les impôts que le ministre de la Transition écologique n'a pas payé en 2015. 48 000 euros de revenus, pas un centime d'impôt, révèle le site. Pas de fraude à l'horizon, les dons de François de Rugy à Europe Écologie Les Verts lui permettaient de bénéficier de ce régime favorable. Mais là où le bât blesse, c'est que le ministre a pu bénéficier d'un logement à loyer préférentiel en fournissant cette feuille d'impôt, selon le site internet. Deux tentatives de suicide, trois autres personnes qui menacent de se tuer, des traitements qualifiés d'inhumains au centre de rétention administrative situé près de l'aéroport de Roissy. L'équipe de la CIMAD, chargée d'aider et de conseiller les migrants, a décidé d'exercer son droit de retrait pour trois jours. Les salariés de cette association se disent épuisés et révoltés par les conditions dans lesquelles vivent les personnes détenues. Le récit de Wafia Kanish.
Il y a dans le centre un degré de violence jamais atteint. Ce constat est celui de toute l'équipe de la CIMAD, du centre de rétention administrative Ménil-Amelot. Pour la première fois à l'unanimité, ils ont donc arrêté le travail, et d'abord parce qu'ils sont sous le choc de ce qu'ils ont vu. Mardi dernier, trois personnes enfermées dans ce centre sont montées sur le toit. L'une d'elles s'est enroulée des barbelés autour du cou. Elles ont ensuite menacé de sauter, et tout ça sous les yeux des autres détenus et des salariés de la CIMAD tétanisés. C'est après cet épisode dramatique que l'équipe a exercé son droit de retrait. Les salariés l'ont fait pour se protéger, disent-ils, mais aussi pour dénoncer une situation qui ne fait qu'empirer depuis le mois de janvier. Car cet acte désespéré n'est d'après eux pas isolé. Une salariée raconte qu'un homme atteint de graves troubles psychiatriques a été placé en cellule d'isolement, une pièce de 2 mètres sur 3, avec un casque sur la tête, sans possibilité de sortir après une tentative de suicide. Il a fallu l'intervention en urgence d'un juge pour qu'on libère cet homme. Isolement abusif, agression, automutilation se répètent, assurent les salariés de la CIMAD, d'autant plus fréquemment que la loi de 2018 a rallongé le temps de rétention qui est passé de 45 à 90 jours. L'enfermement est déjà dur en soi et plus les personnes restent longtemps, plus leur état physique et psychique se dégrade. Selon la CIMAD, les personnes enfermées au centre ont lancé une grève de la faim ce jeudi pour protester contre ces récents événements. La préfecture de police, qui a la responsabilité de ces centres, n'a pas répondu à nos sollicitations.
Les explications de Wafia Kenish. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'Opéra Bastille. 30 ans pour ce haut lieu de la musique et de la danse. François Mitterrand le voulait moderne, populaire et avait choisi de l'implanter dans l'Est parisien pour démocratiser l'opéra. Pourtant, aujourd'hui, le public reste majoritairement aisé et d'un certain âge. Alors, des initiatives pour ouvrir l'opéra à de nouveaux publics continuent de voir le jour. C'est le cas d'Opéra Apéro, une troupe de chanteurs lyriques. Ils donnaient cette semaine une représentation en bas d'une barre d'immeuble à La Haye-les-Roses dans le cadre du festival Au-delà des toits. Théo Conscience s'est rendu sur place.
Au pied de la résidence des Fauvettes, une trentaine de personnes assistent à des extraits d'opéras de Mozart, Bizet ou Offenbach. Dans le public, beaucoup d'enfants, mais aussi des hommes et des femmes qui se sont apprêtés pour l'occasion. Peu à peu, des têtes curieuses apparaissent aux fenêtres et bientôt ils sont plus de 60 dans l'assistance.
Je pense qu'il est important d'aller faire l'opéra au plus proche des gens, physiquement.
Nicolas Slavny est le metteur en scène de la troupe.
Parce que quand on les met en présence d'un extrait musical, artistique, mis en scène, ils n'ont plus du tout le même rapport. Donc très souvent, l'opéra a un aspect très intimidant et je dirais que c'est désintimider l'opéra.
Le public réagit, rigole et participe. Tous ne sont pas conquis, mais ils ont passé un bon moment.
C'était fait sous forme humoristique et je trouve ça très sympa.
C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre de l'opéra dans le genre de quartier, donc ça fait plaisir.
Elle n'aime pas les musiques classiques.
Moi, c'est pas mon style, les musiques comme ça, mais c'était bien.
Des réactions plus ou moins enthousiastes qui n'enlèvent rien à l'intérêt de cette médiation, selon le pianiste de la troupe Orlando Bass.
C'est une manière de faciliter l'approche et si jamais ça marche pas, c'est pas très grave. Je crois pas tout à fait dans une démocratisation de l'opéra dans un sens... C'est assez idéaliste d'imaginer ça et c'est pas le but. C'est peut-être de donner le goût, ou peut-être de tout simplement divertir pendant quelques minutes, ou peut-être juste de confirmer l'opinion de certains que c'est absolument pas du tout leur truc.
Une invitation à la découverte, loin du faste et de l'image élitiste dont peut souffrir l'opéra.
Un reportage signé Théo Conscience. Météo, cet après-midi, il continuera à faire beau et chaud dans tout le pays. Côté température, comptez 19 à Rouen pour la minimale jusqu'à 32 à Marseille. C'est la fin de ce journal. Il vous a été préparé par Emmanuel Faucillon à la technique Nasser Moussaoui.